Société avec Nick Payne.
Bonjour à tous, très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société qui sera remplie de sujets passionnants encore aujourd'hui. Vraiment, là, cette semaine, on est servi, j'ai l'air de me répéter, mais il y a matière à discussion et à réflexion, certainement dans l'actualité politique, là, plus que jamais, disons, en tout cas, cette semaine. Beaucoup, on va dire ça comme ça. Bien sûr, Québec solidaire et sa mésaventure, ou comment dire, ce double épisode, hein, une première partie dans laquelle Émilie Zessart-Terrien, à peine élue co-porte-parole féminine de ce parti, quitte avec fracas, en étalant sur la place publique toute sa déception et son épuisement professionnel aussi. Les deux seraient reliés, au fond. Hein. Et puis, ensuite, Gabriel Nadeau-Dubois, qui, lui, répond, d'une certaine façon, par une sorte de... C'est un peu comme si Nadeau-Dubois jouait le tout pour le tout. Il disait, bon, désormais, cet affrontement entre pragmatique et, disons, idéaliste doit le traverser. Il faut que le parti se modernise, que le programme se simplifie, que les structures s'améliorent. Voilà un peu ce qui s'est passé à Québec solidaire. Puis, bien sûr, il y a une foule d'autres sujets en politique québécoise, canadienne aussi. Rémi Villemur est en studio avec nous pour en parler.
Bonjour.
Est-ce qu'on a Frédéric Lapointe? Frédéric Lapointe est avec nous aussi. Bonjour, Frédéric Lapointe.
Oui, bonjour.
Mais nous allons accueillir d'abord, parce qu'on s'est dit que c'était l'homme de la situation, pour nous parler un peu de la genèse, des origines peut-être de Québec solidaire. Est-ce que ce débat existait déjà à l'époque entre pragmatique et idéaliste? Alors, nous avons décidé de parler à Francis Boucher. Il était responsable des communications à Québec solidaire de 2007 à 2010, je crois. Donc, ça fait un moment déjà. Vous aurez compris que ce n'est pas un expert de la chose QS de bout en bout qui nous parle aujourd'hui, mais bien quelqu'un qui a une expérience, en tout cas, dans ce parti. Bonjour, Francis Boucher.
Ben, merci, Nick, de rappeler mon âge. J'apprécie beaucoup.
Ben, c'est vous qui avez tenu, hein?
C'est vrai.
Vous vouliez qu'on dise que vous étiez là-bas, là, à cette époque-là, parce que quand même, oui, c'est vrai que si vous retourniez à Québec solidaire aujourd'hui, vous seriez dans l'âge d'or du parti, assurément.
Une vieille chose.
Oui, c'est ça. Alors, dites-nous, Francis Boucher, je vous pose la question la plus ouverte possible. Comment lisez-vous ce qui se passe en ce moment à Québec solidaire?
Bien, d'abord, merci de l'invitation. J'apprécie. Je vais pouvoir peut-être apporter peut-être un éclairage, peut-être, j'espère, un petit peu plus... En tout cas, je vais recadrer ça autrement. J'ai peut-être une hypothèse qui n'a pas été mentionnée dans les médias, mais d'abord... il faut souligner peut-être le côté humain de la chose, là, un peu comme Paul Saint-Pierre Plamondon l'a fait suite à la démission d'Émilie. Il y a là, je pense, quelque chose d'assez fort dans le message qui a été envoyé par Émilie, c'est-à-dire la politique, c'est très difficile, c'est dur. Hier, il y a eu deux professionnels des communications qui ont remis leur démission.
À Québec solidaire, hein? Alors là,
à Québec solidaire.
Alors là, c'est vraiment la garde rapprochée. Là. On peut pas les attribuer. Ces démissions-là ne devraient pas être celles de déçus du camp idéaliste. Là. C'est pas de ça dont on parle ici. Là.
Ben, pas tout à fait. Je pense que ce sont des victimes expiatoires. On leur a probablement signalé que pour le bien du parti, il fallait qu'ils partent. On appelle ça une démission, mais bon, entre oui. vous et moi, je pense plutôt qu'on a affaire là à autre chose. Mais ceci dit...
Mon donc, Dieu, bref, mais vous évoquez des vieilles méthodes de vieux partis, de vieilles politiques, si c'est ça, Francis Boucher.
Regardez, comme expert en communication, un vendredi après-midi... sortir une nouvelle comme celle-là, je pense qu'on s'entend que c'est une vieille technique là pour essayer de noyer le poisson. Ça faisait sans doute plusieurs jours que c'était prévu, mais je pense que c'était inévitable. Là.
Peut-être la chose à faire aussi, hein, c'est ça, on fait sortir un peu de pression. Si c'est pas le chef qui part, enfin, le porte-parole dans ce cas-ci, on montre une sorte d'ouverture. On a entendu les critiques, disons.
C'est ça. Donc, je pense que c'était inévitable. Bon, au-delà de l'aspect humain, je pense qu'il y a... comment je vous dirais ça? On a entendu des critiques venant de deux côtés, pour résumer, là, de la gauche, là, disons, on a comme ça. On a d'abord le clan ou le camp plutôt de la gauche, je vous dirais, 2.0. Celle que plusieurs appellent la gauche woke. Je n'aime plus tellement utiliser cette appellation. Là, j'appellerais plutôt ça la synthèse identitaire, à l'instar d'un auteur que je suis en train de lire qui s'appelle Yascha Mounk, le piège de l'identité, le livre s'appelle ainsi.
La gauche des identités multiples. Là.
C'est ça, exactement. Mm-hmm. C'est la synthèse identitaire, là, un mélange de postmodernisme, de décolonialisme et de théorie critique de la race, là, pour résumer ça ainsi. Donc, on a eu, dans les premiers moments, cette gauche-là s'est fait entendre. Josiane Cossette, peut-être, en est une représentante dans Le Devoir. Il y a eu d'autres critiques du même genre.
Ça, c'est celle qui a écrit que ce n'est pas d'hier que les femmes voient leurs idéaux bafoués au sein de Québec solidaire. Est-ce que je me trompe?
C'est tout à fait ça. Oui. On a également
fort,
hier ou avant-hier. Oui, tout à fait. Hier, il y a un article dans Pivot d'une auteure dont je ne me souviens plus le nom, malheureusement, mais bref, qui résume assez bien cette gauche-là, qui dit en gros Québec solidaire ne se colle plus aux idéaux de gauche de 2024, teintés donc de décolonialisme, de lutte identitaire en tout genre. Donc, ils sont sortis assez fortement dans les premières minutes.
Sauf évidemment celle pour l'identité là, québécoise et la lutte pour la protection du français, que cette personne dont vous parlez, que j'ai lu moi aussi, dont j'oublie le nom moi aussi, raille un peu. Hein? Elle dit, bon, aujourd'hui, il s'occupe de l'identité québécoise et de la langue ou quelque chose du genre. Là.
Quelque chose comme ça. Elle accuse, même pas à demi-mot, elle y va, là, franco, elle dit quelque chose comme QS est devenu un parti conservateur parce qu'il ne se colle plus aux idéaux 2024. Donc ça, c'est une partie de l'équation. L'autre partie, c'est plutôt, j'appellerais ça la gauche old school, la gauche à papa, qui est un peu plus la mienne, on va faire son coming out, incarnée par un Éric Martin, par exemple, qui est Éric Martin, qui est un philosophe, qui est aussi l'un des fondateurs de Québec solidaire, qui est allé dans une charge assez virulente dans Le Devoir aussi cette semaine, mais sur des bases socialistes old school, je me répète, l'ancienne école. J'appellerais ça un peu USP. Hein,
alors, ça serait une charge à l'endroit de qui dans ce cas-là? Et je précise que la personne dont nous parlions tous les deux, c'est Judith Lefebvre sur Pivot.
Voilà.
Vous auriez pu parler d'Eliane San aussi. Élie San, là, qui est une militante très en vue, qui est plutôt dans ce camp-là. Jonathan Durand-Folco, dans une certaine mesure, là aussi, plutôt dans le camp que moi j'appelle dorioniste. Hein? On peut aussi simplifier comme ça, mais enfin, allez-y, je vous ai interrompu. Donc, sur cette charge de l'autre camp, là, vous dites-vous, qu'elle est dans quel sens?
Un peu plus, je vous dirais, axé sur les fondamentaux de la gauche, c'est-à-dire une certaine forme de socialisme et d'indépendantisme et de protection, effectivement. Par exemple, ils vont pas hésiter à parler de la langue ou en tout cas des matières un peu plus classiques, entre guillemets, pour du Québec. Notamment des années 60. On est plus proche, mettons, d'un mouvement presque aériniste, mais un peu plus à gauche quand même. Mais bref, vous voyez un peu le topo.
Oui, bien sûr, ça relève davantage de, disons, l'ancienne gauche, là, ou la gauche plus classique, si je vous comprends bien. Mais donc, on a des griefs à l'endroit de la direction actuelle de Québec solidaire, là aussi?
Dans les deux camps, et je pense que ce qui n'a peut-être pas été dit cette semaine, c'est que ce qui relie peut-être les deux critiques, c'est que on n'est pas capable de lire politiquement Gabriel Nadeau-Dubois. Donc on va recentrer un peu sur lui pour quelques secondes. Mm-hmm. Il a eu grand mérite cette semaine, à mon sens, d'abord de faire une sortie quand même assez courageuse, assez couillue, on va se le dire. Il n'a pas dissipé certaines ambiguïtés, mais il a eu le mérite aussi de repolitiser la chose. Après tout, c'est un parti politique, on peut pas nécessairement toujours focaliser sur les personnes. Donc, il a eu ce mérite-là. Je pense que ça mérite d'être souligné. Mais une fois que j'ai dit ça, il n'y a pas dissipé l'ambiguïté ou l'injustice. Tu sais, à l'instant de Jean-François Lisée, j'ai presque envie de poser la question suivante. Quelle est la vraie idéologie de Gabriel Nadeau-Dubois? Ça ne m'apparaît pas clair encore. Là. Puis c'est peut-être ça qui crée beaucoup de friction. On ne sait pas où il loge. Il est un peu j'ai envie de dire l'homme de la synthèse. On parlait de François Hollande, qui était l'homme de la synthèse en France pour le Parti socialiste. J'ai l'impression qu'il
y a... Oui, on disait aussi Flamby, hein? Donc on n'est pas certain. c'est un peu ce que vous dites. C'est intéressant ce que vous dites. Donc, les problèmes actuels relèveraient aussi du fait que, comment dire, le pragmatisme de Nadeau-Dubois, revendiqué désormais, devient suspect du fait qu'on ne sait pas trop où il loge, au fond.
Ce serait... Oui, c'est mon analyse. Je pense que tout le monde, c'est un peu un test de Rorschach depuis quelques années. Tout le monde y voit, là, vous savez, de ces tests de psychiatre où on montre des taches. Et puis, tout le monde y voit un peu de son interprétation. J'ai l'impression que c'est un peu ça, notre ami Gabriel Nadeau-Dubois. Tout le monde y projette un peu ce qu'ils veulent bien y projeter. Un seul Zanetti, par exemple, va y voir là un grand indépendantiste, alors que aux dernières élections, il n'en a à peu près pas parlé. D'autres vont y voir un champion de la gauche intersectionnelle, alors que dans les faits, il n'en parle pas tant que ça. C'est pas nécessairement un sujet de prédilection. Donc, il y a de l'ambiguïté. Donc, à mon sens...
Il y a un problème de contenu, là. Oui, c'est intéressant.
Oui, je pense, en tout cas. Donc, au-delà de dire que... Je m'excuse, Nick, que je termine là-dessus.
Au-delà
de nous dire qu'il veut réformer le programme, le rendre plus court, soit parfait, mais encore faut-il qu'il nous dise qu'est-ce qu'il veut y mettre dans ce programme-là. Qu'est-ce qui... Mettons qu'on y va en élection avec... 5 points précis, mais ces points-là seront de quelle origine ou de quelle idéologie ou en tout cas sur quelle base politique. Ça, pour moi, ça m'apparaît évident que ça a besoin d'être clarifié. Puis je ne sais pas s'il est capable d'aller là ou s'il a envie d'aller là.
Mais là, je saisis la balle au bon. Francis Boucher, ancien, très, très, très ancien responsable des communications de Québec solidaire. Si vous n'êtes que porte-parole... Vous n'êtes pas chef. C'est difficile, en effet, de mettre en avant vos idées à vous pour qu'on vous saisisse bien. Vous voyez, c'est peut-être que là-dessus, Nadeau-Dubois a raison quand il dit que la structure est un peu pesante et qu'elle doit être dépoussiérée. Elle n'est plus adaptée au Québec solidaire d'aujourd'hui, au fond. Est-ce que vous accédez à cette possibilité que le fait d'être porte-parole l'empêche d'être aussi clair qu'il ne le pourrait sur ses propres orientations à lui?
Oui, je pense qu'il est pris un peu dans cette structure-là. Je pense que s'il s'écoutait, ce serait pas le modèle qu'il voudrait. En même temps, il est embarqué là-dedans en toute connaissance de cause. Tu sais, il savait très bien dans quoi il s'embarquait. Est-ce que depuis le début, il avait le plan, entre guillemets, machiavélique de réformer tout ça? Est-ce qu'on arrive peut-être à l'aboutissement de ce qu'il voulait faire? Je sais pas. On spécule, là. J'en ai aucune idée. Mais une chose est sûre, c'est qu'effectivement, cette structure de porte-parole-là n'est pas simple. Il n'y a pas d'autres partis politiques que je sache en Amérique du Nord. C'est pas un accident qui fonctionne comme ça. Mais on va peut-être me dire certains partis plus à gauche, peut-être en Espagne ou que sais-je, c'est possible, mais c'est une structure très, très particulière dans un système britannique qui n'est pas fait pour ça, là.
Qui ne la reconnaît pas, d'ailleurs, là, à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'il faut, cette espèce de président d'apparat ou je ne sais trop, de chef. Enfin, c'est compliqué, mais... Et puis le fameux Politburo, ça, c'est autre chose. Mais donc, en terminant, Francis Boucher, avez-vous l'impression que cette sortie que vous avez vous-même qualifiée de courageuse de Nadeau-Dubois... puisse mener à autre chose qu'à son départ de Québec solidaire? Je pose la question encore ici de façon totalement ouverte. Je ne suggère pas de réponse parce que c'est quand même révolutionnaire ce qu'il a fait, là. Il s'est exprimé vraiment comme un chef. C'est sa parole à lui qui l'a portée plutôt que celle du comité de coordination. On a l'impression qu'il nous a fait un Pauline Marois. Vous vous souvenez, au retour de Pauline Marois au Parti québécois, elle avait dit « Voici ma corbeille de la mariée ». Alors, moi, ça va marcher comme ceci, comme cela, comme cela. Sinon, oubliez-moi. C'est un peu ce qu'on entend dans le propos de Nadeau-Dubois. Il dit « Je suis rendu à un stade de mon engagement où je dois être plus clair que jamais ». Et là, il édicte ses conditions, en somme. Il y a un certain pouvoir de négociation. Est-ce que Québec solidaire peut imaginer des lendemains sans lui aussi? C'est une autre question qui se pose.
Ce sont toutes d'excellentes questions. Ce que je remarque, peut-être un indice, là, remarquer à quel point, dans le fond, il y a eu beaucoup de critiques cette semaine de sa base, là. Comme je viens de vous décrire, deux formes de critiques, mais j'ai pas entendu beaucoup de gens de sa base, des électeurs ou des militants prendre sa défense. Par contre, j'ai entendu beaucoup de médias, des chroniqueurs ont beaucoup aimé.
Oui, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose pour lui.
c'est un peu là que je vais. Là. Ouais. Est-ce que c'est le candidat des médias? Est-ce que c'est le darling des communications? Parce qu'effectivement, il communique très bien. Les journalistes ont tendance à aimer ça. Moi-même, comme responsable des communications, je remarque ces choses.
Ah, il a mis tout le monde dans sa petite poche, hein, comme on dit.
On pourrait dire ça, mais sauf que plusieurs militants ne sont pas dupes. Et puis ça, pour moi, ce serait un signal d'alarme pour lui, qui a tenté un coup de force. Est-ce qu'il va le gagner? Je ne sais pas. Puis même dans sa propre députation, je ne mettrais pas ma main au feu que ce soit la belle unanimité là, de façade qu'on a vue cette semaine. Je ne suis pas sûr du tout que ça a passé comme une lettre à la poste.
Là. Oui, unanimité relative par ailleurs, parce que vous avez entendu Vincent Marissal dire qu'il faudrait quand même revoir certaines choses. Sol Zanetti qui essaie de faire la quadrature du cercle en disant que tout va bien, mais il faut tout changer. C'est un peu aussi le propos de... d'Alexandre.
Il faut tout changer pour que rien ne change.
Oui, de M. Leduc et Mme Labrie. C'est compliqué. Hein? On sent que tout le monde marche sur des œufs là-dedans. Mais je rappelle qu'au premier acte de cette chicane, appelons-la comme ça, les militants de Québec solidaire avaient à la fois élu Émilie Dessart-Terrien, qui était un peu la candidate de la politique autrement, et aussi accordé un très fort vote de confiance à Gabriel Nadeau-Dubois. Donc peut-être qu'il a plus d'appui qu'on le pense encore aujourd'hui. Qu'en dites-vous?
C'est tout à fait possible. Est-ce que la majorité, pour faire un peu une tarte à la crème, la majorité silencieuse va l'emporter? Je l'ignore. Je suis pas capable d'en faire l'évaluation, mais je remarque quand même que il y a Amir Kadir, notamment cette semaine, qui a fait des sorties très, très envolées et très, très fortes. Il est allé d'une charge très virulente contre Gabriel Nadeau-Dubois. À demi-mot, il l'accusait, grosso modo, d'être partisan de petites réformes, puis que c'était au final un péquiste comme les autres.
C'est pas très...
Si on lisait un peu entre les lignes. Là,
c'est pas très bon, ça, Québec solidaire, quand Amir Kadir vous savonne. D'ailleurs, Françoise David n'a pas été très enthousiaste, elle non plus, hein, si je ne m'abuse.
Malheureusement, je n'ai pas entendu François.
On me dit qu'elle dit que, en fait, si on devient un parti comme les autres, on sera un gouvernement comme les autres. Hein. C'est à peu près son propos. C'est pas tellement sympathique à ce que propose Gabriel Nadeau-Dubois non plus. Enfin, c'est à suivre. Francis Boucher, vous êtes ancien responsable des communications, parce qu'à Québec solidaire, il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de patron, tout le monde est chef.
Non, c'est pas vrai ça. Gabriel Bréharvey, à démissionner, c'était la directrice des communications.
Ben, c'est ça.
Mais à mon époque, effectivement, ça
n'existait. Ils vont peut-être retrouver un responsable à la place. Mais, merci. Soyez sur les rangs, Francis Boucher, on ne sait jamais, vous pourriez reprendre du service et rajeunir du coup.
Non, merci.
D'abord, merci d'avoir pris le temps proposer un point de vue. À une prochaine. Salut. Frédéric Lapointe, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on a assisté cette semaine à la fracture, à la collision, à l'affrontement entre les pragmatiques et les idéalistes, ou entre... Et là, c'est moi qui éditorialise en vous posant la question comme ça, mais est-ce que c'est peut-être pas plutôt un choc entre ceux qui veulent faire de la politique et ceux qui veulent faire du bruit et avoir une tribune et être vus comme des victimes, parce que c'est tellement payant désormais dans une certaine gauche d'être victime de quelque chose. Là, évidemment, je pense à Émilie Dessart-Terrien qui reprend un peu le discours de Catherine Dorion. On a l'impression qu'on a fait subir à ces femmes dans ce parti des sévices hallucinants. Et puis pourtant, c'est Québec solidaire. On se dit que ça se peut pas. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous?
Il y a une différence très importante entre Catherine Dorion et Émilie Dessart-Terrien. Catherine Dorion était...
Ah ben, elle écrit mieux. Oui.
Oui, d'une part. Mais elle était députée...
Ça, élue... c'est moi, hein? c'est mon avis.
Mais elle était députée élue sous son nom, sous son style, et ses frasques ne représentaient qu'elle-même. Dans le cas d'Émilie Dessart-Terrien, elle était co-porte-parole du parti politique. Mm-hmm. Ça veut dire vivre avec les contraintes de son organisation et de son parti politique. Quand j'entends qu'elle se lamente du fait que ses élans portés par l'intuition et la sincérité se trouvaient recadrés, ben, je suis forcé de rappeler que lorsqu'on est porte-parole d'un parti politique, on n'est pas dans une séance de brainstorming ou dans un atelier de création personnelle. C'est une organisation professionnelle, sérieuse, et il se peut qu'à ses débuts, on soit maladroite, qu'on soit recadré, mais ce n'est pas être victime que de devoir rentrer dans un certain moule. Ce n'est pas c'est pas un stand-up comique, là, à être porte-parole d'un parti politique. Ça vient avec des contraintes. Donc, je pense que oui, il y a un enjeu de professionnalisme versus l'amateurisme dans cette histoire-là.
Alors, donc oui, c'est ça. Au-delà, ou peut-être parallèlement au débat de fond qui existe aussi, si je vous suis bien, entre pragmatique et idéaliste. Rémi Villemur, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on y revient à la sortie des ministres de Sartérien, qui était effectivement vraiment une longue complainte. Par contre, on ne sait pas exactement ce qu'elle essayait tant d'imprimer à ce parti qui ne voulait pas advenir. Hein? On sait que ça allait très mal, apparemment, mais on ne sait pas exactement dans quelle mesure. Est-ce que, selon vous, ça aussi, ça nous amène à nous demander, est-ce qu'il n'y a pas une question de, voilà, simplement de sérieux, de maturité, de professionnalisme qui intervient?
Bon, est-ce que je me lance une fleur? Je vais m'en lancer une, d'accord? Moi, j'avais dit sur les ondes de l'émission que vous écoutez tous et toutes en ce moment que c'était pas une candidate très, très sérieuse. Je la voyais pas gagner. Elle a remporté la course il y a quelques mois et il s'est avéré qu'elle n'était pas très sérieuse non plus puisqu'elle a démissionné assez rapidement. On évoque 100 jours depuis quelques jours, mais c'est moins que ça parce qu'il faut enlever les vacances de Noël, il faut enlever la semaine après Noël où personne n'a
pas. J'avais compris, moi, que c'est après toutes les déductions, ça donnait à peu près 100 jours.
Alors, 100, oui. C'est pas beaucoup. Puis, honnêtement...
Ben, c'est pas beaucoup pour arriver à des conclusions aussi brutales.
Oui, et justement, on va y venir. Là. Moi, je pense qu'on est effectivement plus dans une logique de... J'essaie de justifier le manque de enfin, mes insuccès. J'essaie de justifier le fait que j'ai pas été à la hauteur. J'essaie de justifier le fait que ça a pas fonctionné en mettant ça sur le dos de facteurs très... C'est très bon chic, bon genre là, depuis quelques années. Là. C'est-à-dire, c'est un parti d'hommes, c'est un parti de professionnels, point L, point E, point S. Enfin, je me suis sûrement trompé dans cette nomenclature-là. J'ai pas fait la mise à jour ce matin. Donc oui, ça marche, mais heureusement, et là, moi, je suis heureux de le dire, franchement, j'ai trouvé que les médias ne sont pas embarqués du tout là-dedans.
Ah, vous trouvez?
Ah non, mais partout, j'ai trouvé qu'on était dans... Radio-Canada toute la semaine, j'ai écouté évidemment Cube toute la semaine, j'ai lu les articles, j'ai lu les chroniques, et j'ai vu à peu près personne dire, justement, qu'il fallait être à l'écoute, qu'il fallait être bienveillant, qu'il fallait accepter qu'une femme... Non. Alors, on est allé... on a dit, écoutez, à un moment donné, Québec solidaire doit devenir adulte. Et là, il y a une lutte, comme vous le dites, entre les adolescents et les adultes. Les adolescents essayent de maintenir le statut adolescent du parti. Et les médias ont été du côté de Gabriel Nadeau-Dubois en disant « Non, écoutez, à un moment donné, ça marche pas comme ça. » C'est-à-dire que si vous êtes élu, vous devez faire avec le système. Et pour faire de la politique autrement, il faut commencer par faire de la politique. Ensuite, vous faites ça autrement. Mais vous ne pouvez pas commencer avec autrement. Disons autrement. Donc, il faut faire de la politique. Et Émilie Lesartérien, on dirait, avec les informations qu'on a, qu'elle ne voulait pas faire de politique. Et il y a beaucoup de gens à Québec solidaire, je pense surtout aux militants, et d'ailleurs, c'est un très bel entretien que vous venez de faire avec Francis Boucher, parce que c'est ça la question. Maintenant que les médias sont du côté de l'espèce de réforme de Gabriel Nadeau-Dubois, on lui trouvera un nom à un moment donné, ben, de quel côté sont les militants? Sans doute sont-ils du côté... l'idée de rester une formation adolescente. Quand on regarde la sortie d'Amir Kadir, de Françoise David, on a toutes ces têtes dirigeantes-là qui ne sont plus là et qui semblent vouloir militer pour l'idée de maintenir le parti dans un statut pareil. T'sais. Donc, on verra bien qu'est-ce qui va arriver. Mais j'ai bien l'impression que ce que Gabriel Nadeau-Dubois essaye de faire, c'est de faire enfin en sorte que ce parti-là devienne un peu sérieux. Mais moi, je n'y crois pas. Je ne crois pas que Québec solidaire peut même devenir l'opposition officielle un jour au Québec.
Mais peut-être ne le veulent-ils pas seulement, les gens de Québec solidaire. On pense au NPD fédéral.
Ouais, je suis obligé de prendre Gabriel Nadeau-Dubois au mot. Là. C'est-à-dire que lui, il dit on veut devenir un parti de gouvernement. Mais je veux dire, il faut connaître quand même le Québec un peu, là, le Québec profond, la sociologie du Québec. Québec solidaire n'a pas fait des gains à la dernière élection. Ils ont perdu un comté. Donc, moi, je ne pense pas qu'on va se rapprocher de plus en plus d'un monde où il pourrait former l'opposition officielle. Je veux dire, je pense connaître un peu bien, quand même relativement bien le Québec. Donc, à ce moment-là, moi, je questionne même les intention de Gabriel Nadeau-Dubois. Veut-il vraiment le bien du parti ou ne veut-il pas se donner plus de responsabilités, plus de pouvoir? Il a quand même la réputation de travailler.
Alors là, on serait dans une guerre d'égo, des deux côtés, finalement.
C'est
on
très
chercherait...
politique. La vieille politique, ça.
Oui, ben oui, c'est bon. Mais Frédéric Lapointe, Rémi Villemur nous dit les militants de Québec solidaire risquent de choisir le côté adolescent ou la révolte sommaire, simpliste, bon, qui ne se conjugue que très mal avec l'exercice plus sérieux de la politique, même si on veut la faire autrement. Là. Est-il possible qu'on, que les militants de Québec solidaire cherchent à joindre, voilà, et qu'ils arrivent un peu dans une impasse idéologique, mais qu'ils pensent encore possible de concilier ces deux pôles, c'est-à-dire de faire de la poésie et des sorties larmoyantes, tout en étant sérieux dans l'exercice politique. Parce que vous vous souvenez de... Je l'évoquais avec Francis Boucher, l'élection au co-porte-parole, les militants ont à la fois appuyé très, très, très fortement Nadeau Dubois, qui était déjà identifié à l'époque comme le politicien conventionnel avec la cravate, et voilà, les photos de famille, et puis, et en élisant en même temps Émilie Essart-Thérien, de justesse, faut-il le dire aussi.
C'est triste à dire, mais pour que la recette Québec solidaire fonctionne, il faut qu'il y ait à la fois le côté sérieux et le côté givré. Et si l'un des deux l'emporte sur l'autre, ben c'est l'échec de la recette.
Ah oui, vous pensez qu'il n'y a pas d'espace pour un parti qui serait très à gauche, mais un peu plus sérieux dans sa volonté de faire de la politique au sens où on l'entend?
Il risque la dévitalisation. Hein. C'est un peu comme un Parti québécois qui ne viserait que le gouvernement. Il risque sa dévitalisation. Par ailleurs, réussir des réformes de parti, c'est un exercice difficile. Moi, j'ai fait la saison des idées de Bernard Landry en 2004-2005. On a changé des choses, mais on a mis 18 mois à le faire avec un soin particulier et ça a réussi. Jocelyn Caron, l'ancien président récent là, du Parti québécois, a réussi à réformer tout de fond en comble, mais le Parti québécois était presque mort. J'oserais dire que c'était plus facile, même si ça a été très bien fait. Peut-être que Québec solidaire devrait lui demander des conseils d'ailleurs, mais à Québec solidaire, ils n'ont pas cette habitude. Le Parti québécois s'est auto-réformé. C'est un peu ridicule d'ailleurs, mais pendant une trentaine d'années, on finit par en avoir la pratique, l'attente, la patience. Je ne sais pas si à Québec solidaire, ils auront à la fois l'appétit et la patience pour ce genre d'exercice. Je voudrais qu'ils réussissent. Je pense que c'est dans l'intérêt du Québec qu'ils réussissent. Et ce serait triste que cette formation politique, sur la base de ce qui m'apparaît davantage de l'ordre du coup de tête pas forcément très réfléchi, se trouve à prendre une très mauvaise direction ou une très mauvaise tangente à l'heure où, et j'ajoute ça à l'équation, à l'heure où on a besoin au Québec d'une coalition de plusieurs formations politiques derrière la souveraineté du Québec. Alors, je ne peux pas me réjouir, moi, de voir l'une de ces formations politiques-là risquer son existence, rater sa recette.
Oui, certains indépendantistes pourraient vous dire qu'ils sont au contraire plutôt heureux de voir que ce problème s'efface peut-être, mais je parle de Québec solidaire parce que c'est un parti évidemment qui tire beaucoup l'option vers une gauche radicale si tant est que ce parti est vraiment indépendantiste, mais ça c'est un autre débat. Mais Rémi Villemur, je vous écoute tous les deux, est-ce que tout ça peut mener à autre chose qu'au départ de Gabriel Nadeau-Dubois?
Mais juste une chose avant, c'est que allez-y. Moi, là où je suis peut-être pas d'accord avec Frédéric Lapointe, c'est que je pense pas que ce soit un coup de tête ou que là, on soit peut-être sur le bord de voir le parti se diviser et que ce soit un détail. Si on avait demandé à des gens il y a 5-6 ans, des experts, de prédire le facteur de division du parti, on aurait dit ça. On aurait dit un jour ou l'autre, il y aura une scission
possible. La fameuse crise de croissance.
Ben, exactement. On le voyait venir, là, les gens qui avaient quand même de la vision... ne voyait que ce précipice-là un jour, tu sais, de se dire, bon, ben écoutez, il y aura des adolescents et des adultes, et les adolescents qui veulent devenir adultes voudront devenir adultes, et les adolescents qui veulent rester dans le sous-sol voudront rester dans le sous-sol. Donc moi, je suis pas du tout surpris. Moi, il y a une chose qui m'a surprise, par contre, cette semaine, c'est de voir des figures dites pragmatiques prendre le côté d'Émilie Lissantérien de façon pas très subtile. Sol Zanetti, ce matin, dans une lettre donc, dont la presse canadienne a obtenu une copie, Sol Zanetti, si ma mémoire est bonne, vous le connaissez mieux que moi, c'est un ancien membre d'Option nationale, un homme, un indépendantiste, un gars pragmatique. Finalement, vous dites, il fait la quadrature du cercle en disant, écoutez, il ne faut pas non plus arrêter de rêver. Il dit, bon, OK, d'accord.
Ah non, mais il dit, si je ne m'abuse, que Québec solidaire a probablement perdu des milliers de votes en étant trop conventionnel aux dernières élections.
Vincent Marissal, un ancien chroniqueur politique, un gars qui a un esprit politique, un esprit intellectuel.
Lui, c'est un appui de la première heure des milices de Sartre.
Je veux bien, sauf qu'à ce moment-là, c'est le premier qui sort dans les médias en disant « Moi, je pense qu'on n'a pas été assez à l'écoute, on aurait dû être bienveillant. » Tu attends ça de, je sais pas moi, les plus jeunes militants de Québec solidaire comme commentaire. C'est assez surprenant. Finalement.
Est-ce que ce ne sont pas des gens qui se sentent sur un siège éjectable et qui ont une peur bleue de déplaire à ces militants-là qui, à ce moment-là, il faut... en prendre acte sont encore pesants et importants dans le parti?
C'est une option. Ou l'autre option, c'est que la base militante a une incidence dont on n'est même pas capable de mesurer l'ampleur. C'est-à-dire que ces gens-là sont influencés par les militants plus que dans n'importe quel autre parti. Et que quand vous entrez à Québec solidaire avec des intentions, des convictions, une carrure, ben, ces trois choses-là sont influencées un jour ou l'autre par des militants qui mettent de la pression dans les conseils nationaux, dans les congrès. C'est eux qui décident du programme, là, Colin. C'est quand même assez particulier, là. Votre question, c'était?
Non, mais vous y avez répondu, je m'en souviens plus, parce que je pensais déjà à ma prochaine question à Frédéric Lapointe. Frédéric Lapointe, au-delà de ce qu'on pense là, des deux pôles là-dedans, Rémi Villemur nous parle des adolescents qui ne veulent pas devenir des adultes. Disons qu'au contraire, ils sont... ils représentent, ces gens-là, une orientation valide, valable, qu'il faut respecter et ne pas voir comme une crise d'adolescence. Là. Néanmoins, est-ce que je vais trop loin si je vois ici l'influence de l'onde de choc Catherine Dorion se maintenir sur Québec solidaire? C'est-à-dire que je reviens un instant encore à l'élection au co-porte-parole. Vous avez Catherine Dorion qui intervient là-dedans vers la fin de la course et qui lourdement intervient et qui, à la suite de quoi, Émilie Zessart-Terrien se colle à Catherine Dorion. Elle devient vraiment la candidate qui veut porter la parole d'Orion, l'esprit d'Orion à Québec solidaire, en tout cas dans une certaine mesure. Pensez-vous qu'on en est encore là, que c'est ce qui pèse encore aujourd'hui dans le débat à Québec solidaire?
Oui, c'est bien possible qu'Émilie Zessart-Terrien doive son succès inattendu au ralliement de la frange, je l'appellerai givré, là, pour pas reprendre les termes de notre collègue, les membres, peut-être, avec l'opportunité d'avoir deux porte-parole, ont pu vouloir équilibrer les choses ou adopter une diversité tactique, là, hein, pour reprendre des vieux termes du printemps érable de 2012, et que cette recette-là aurait très bien pu prendre, c'est-à-dire que il y a le côté sérieux, Gabriel Nadeau-Dubois qui prépare le gouvernement, qui est l'éventuel premier ministre, puis il y a l'autre co-porte-parole qui joue sur une autre tonalité. C'est ça, je le répète, c'est ça la recette. Mais encore faut-il que chacun soit prêt à l'occasion à se mordre les lèvres, à se pincer le nez, puis à passer au travers de l'épisode de pluie, non?
Intéressant. Rémi Villemur, alors là, on campe Gabriel Nadeau-Dubois chez les pragmatiques, les sérieux qui aspirent au pouvoir. Mais justement, a-t-il ce qu'il faut pour jouer ce rôle et mener à bien un tel projet pour Québec solidaire? Se pourrait-il qu'il soit en train de faire une sorte de fuite en avant, Gabriel Nadeau-Dubois? Non seulement faire diversion sur le débat qui entoure le départ d'Émilie Zessart-Terrien, mais aussi sur ses capacités à lui d'aller plus loin là-dedans. Peut-être que pour plusieurs, c'est encore un leader étudiant qui n'a pas fait grand-chose d'autre dans la vie et auquel on n'a pas envie de confier les rênes du pouvoir demain matin.
Ben, je vais vous répondre très simplement. C'est le meilleur candidat à Québec solidaire. C'est la personne qui peut emmener le parti le plus loin. D'accord? Moi, je n'ai rien contre l'affirmation là, de plusieurs experts cette semaine à savoir que c'est le meilleur politicien de sa génération. C'est un gars qui a le profil, en tout cas, qui a travaillé, qui a cheminé. Moi, je lui attribue toutes ces qualités-là. Par contre, il y a quand même une différence entre affirmer cela et dire que ce gars-là, un jour, va être chef de l'opposition au premier ministre du Québec. Je reviens à ce que je disais précédemment. Je pense pas que la sociologie du Québec permet la progression de ce parti-là au-delà de 12-13 députés. Écoutez, cette semaine, j'ai écouté à la radio une animatrice que je ne nommerai pas, une collègue qui disait que Québec solidaire avait déjà eu 20 députés. En fait, c'est pas vrai. Premièrement, Québec solidaire n'a jamais eu plus que 12 députés, je pense, et en a perdu un à la dernière élection.
Pas Émilie Zessart-Terrien, justement?
En Abitibi. Ouais. Mais on est dans l'idée que Québec solidaire a 20 députés parce qu'ils sont très présents, parce qu'il y a eu une progression, mais 12 députés, c'est à peu près le maximum quand vous regardez la carte électorale. Je veux dire, ils feront pas plus de gains. Écoutez, ils sont déjà au maximum, ils font des gains dans des villes étudiantes, donc ça veut dire qu'on est sorti de Montréal. Bref, c'est la limite de Québec solidaire. Donc, à ce moment-là, il faut comprendre, bon, est-ce que ce parti-là s'efface, parce que moi, j'invite les gens à revisiser une entrevue de Pierre Falardeau au Franc-Tireur avec Richard Martineau il y a de nombreuses années, où Falardeau se demandait pourquoi toutes les organisations de gauche voulaient toujours devenir des partis politiques. Il disait Québec solidaire, pas obligé d'être un parti politique. Et il avait raison, parce qu'à un moment donné, on voit bien que ce parti-là ne progresse plus. Hein, le Parti québécois a réussi à obtenir le pouvoir, le Parti libéral a réussi à obtenir le pouvoir, la CAQ, ils sont au pouvoir. Mais Québec solidaire n'y arrivera jamais.
Oui, mais on est en démocratie, c'est un parti qui porte une vision.
Mais c'est correct, mais à ce moment-là, il faut quand même faire l'effort, ou c'est même pas un effort, faut interpréter les propos de Gabriel Nadeau-Dubois avec sérieux quand il nous dit « je veux donner un parti de gouvernement ». Tu dis « ok, d'accord, donc tu penses vraiment que c'est possible, prouve-le ».
Oui, vaste programme, comme disait l'autre. Pour terminer sur ce sujet-là, Frédéric Lapointe, si ça ne marche pas là, pour Gabriel Nadeau-Dubois, cette réforme du parti, puis franchement, ce serait une sacrée réforme si on...
une révolution.
Ce serait un nouveau parti. Peut-on imaginer un départ de Nadeau-Dubois pour fonder un autre parti? Un parti, son parti de gauche d'abord, puis bon, ensuite vaguement féministe, écologiste et encore plus vaguement indépendantiste. Donc, il ne serait pas le Parti québécois, là, plus à gauche, opposé au fameux nationalisme dit identitaire, hein, que dénoncent beaucoup les militants de Québec solidaire. À l'heure actuelle, est-ce qu'on pourrait imaginer ça, un nouveau... on est dans la politique fiction un peu, mais quand même, ça peut être plus proche de nous qu'on ne le pense.
C'est plus proche de nous qu'on le pense. Ceux qui ont notre âge, hein, une cinquantaine d'années, se souviendront que dans des circonscriptions montréalaises comme Sainte-Marie-Saint-Jacques, il y avait jusqu'à 7, 8, 9, 10 candidats représentant la mouvance communiste. D'autres tons d'orange dans d'autres circonscriptions est la même. Donc, la situation habituelle du côté de la gauche foncée, là, dirions-nous, c'est qu'il y ait un fractionnement et une espèce d'impuissance politique découlant du fractionnement. La normale, c'est ça. Le génie de Québec solidaire, le génie de l'UFP et d'Options citoyennes, c'est d'avoir réussi à rassembler toutes ces factions, toutes ces micro-chapelles dans une organisation à peu près fonctionnelle et ayant un certain succès électoral. C'est Québec solidaire qui est inédit. C'est pas le fractionnement de la gauche qui est inédit. Alors oui, c'est à craindre.
C'est une tendance naturelle, c'est ça que vous nous dites. On serait en train de revenir à la normale, au fond, dans cette famille ou dans ces familles politiques-là.
Exact. Et dans une perspective, j'y reviens, dans une perspective souverainiste, où nous aurons à constituer une coalition pré-référendaire et référendaire, d'avoir la gauche désorganisée, émiettée, impuissante. Je vois pas vraiment à quoi ça va nous aider.
Intéressant. Changeons complètement de sujet, Rémi Villemur, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter là-dessus.
Non, mais pour les fans d'histoire, il faut donc il y a l'entrevue de Falardeau avec Richard Martineau, mais il y a également le conflit entre Charles Gagnon et Pierre Vallière dans les années 60-70, là, au tournant des années 70, qui nous instruit beaucoup sur le genre de conflit qui habite la gauche. Des fois, les extrémistes s'accrochent, comme Charles Gagnon et comme Émilie Lessard-Terrien et plein de militants, et des gens veulent faire avancer une cause, Pierre Vallière.
Alors, c'était pas Vallière l'extrémiste dans ce cas-là.
Non, c'était Gagnon.
On dit beaucoup sur Gagnon. Intéressant. Oui, parlons de cet épisode étonnant cette semaine autour du campement pro-palestinien à McGill. Alors, les dernières nouvelles là-dedans, je pense, à moins que je me trompe, c'est que François Legault demande l'intervention de la police. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Rémi Villemur?
Bon, écoutez, c'est délicat quand même parce que c'est tout à fait exact qu'un premier ministre n'a pas le droit ou n'a pas dans son mandat, il n'existe pas l'idée qu'il demande la police.
Ça devrait être la mairesse, oui.
Bon, ça, faudrait vraiment être très optimiste. D'ailleurs, elle n'a absolument rien dit, ou presque. En tout cas, quand elle s'est exprimée, c'était très en retard. Mais Gabriel Nadeau-Dubois risque de se présenter un jour à la mairie, donc peut-être qu'elle n'aura plus à composer avec elle. C'est une rumeur qui court.
Ben oui, ça va un peu dans le sens de ce que je disais, mais d'une autre façon. Là. Ouais,
écoutez, c'est sûr que moi, j'apprends cette semaine un tas de choses au plan juridique. Moi, j'étais dans l'idée que si vous avez un terrain privé et que des gens viennent s'installer dessus et que vous demandez à la police, enfin, vous demandez à ces gens-là de quitter, ben il y a un recours. Je pensais, moi, que ça existait, ce recours-là.
Oui, mais là, ici, c'est un terrain privé public, c'est-à-dire qu'on a le droit de passer dessus.
Ouais, d'accord, mais ça reste un terrain...
C'est l'institution qui décide, mais...
OK, ben en tout cas, je découvre qu'on peut tous juste aller vivre sur le terrain de McGill gratuitement. Enfin, c'est, je le découvre, là,
si
franchement.
Si vous êtes pour la bonne cause.
Si vous êtes pour la bonne cause. Ben, en fait, McGill veut qu'il s'en aille. Donc, c'est la bonne cause, mais il veut quand même qu'il s'en aille. C'est assez délicat. Je pense que là, il faut faire attention. Il y a toutes des notions légales que je pense, à ma connaissance, vous ni moi ni vous ne maîtrisez, ni même Frédéric Lapointe, mais... c'est assez particulier. Moi, je vous avoue que ça me fait un petit peu rire, ça me fait un petit peu plaisir de voir McGill prise avec ce problème-là.
Son propre problème.
Ben, c'est son propre problème, en fait. Puis, oui. Vous savez, c'est une cause, la cause pro-palestinienne qui est tout à fait...
On dit ça que c'est son propre problème parce qu'on sait bien que sur les campus universitaires, pas seulement nord-américains, mais beaucoup nord-américains, anglophones, alors là, vraiment, la sympathie envers... Gaza, la Palestine, et même Hamas est à son comble.
Ah oui, tout à fait. Et je note quand même une chose qui me désole, j'en ai pas entendu beaucoup parler cette semaine, c'est que pendant ce temps-là, tout se fait en anglais, hein, de part et d'autre. J'ai vu la contre-manifestation pro-israélienne. On s'envoyait des insultes comme des slogans en anglais. Ça se passe en anglais. Les affiches sont en anglais. Ça discute en anglais. Les militants qui prennent la parole avec les micros, vous savez, ces courageux qui sont masqués, ça se passe en anglais. Donc, je me demande si on est au Québec. Là.
À l'univers. Mais qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Lapointe, de toute cette histoire? Est-ce qu'on va finir par démanteler ce campement déjà?
Ben, François Legault, je pense qu'il a raison de commenter la situation. Entrer dans l'espace public francophone. Je crois que les observations d'Amy sont bonnes au sujet de la langue d'usage. Raison d'ailleurs pour laquelle les événements de McGill sont plus connus, mais d'autres événements à Concordia ou dans certains quartiers de Montréal étaient peu remarqués par la majorité de la population québécoise.
Mais si vous faites une recherche à ce sujet-là, je ne sais pas, sur Google, vous allez trouver les grands titres d'abord à CTV, La Gazette, le National
exact.
Post.
Exact. Donc, je pense que c'est intéressant que, entre guillemets, le chef de la nation recadre un certain nombre de choses. Cela dit, je pense que son intervention aurait dû être non pas de qualifier d'illégal l'occupation et d'appeler à l'intervention. Ça rappelle un peu trop, à mon goût, Jean Charest au sujet des manifestations étudiantes, encore qu'ils espèrent peut-être un profit politique en jouant la ligne dure, mais certainement de rappeler à tous les manifestants de tous les côtés qu'il y a un droit de manifester, c'est garanti par la Charte des droits et libertés du Québec, mais nous avons aussi tous, les uns envers les autres, le devoir d'être respectueux, solidaire, j'oserais dire loyal, et donc de ne pas nous en prendre aux nôtres au nom de conflits à l'étranger pour lesquels on peut peut-être être sensible, mais dans lesquels on n'est à peu près aucune partie prenante.
En effet, en terminant sur ce sujet-là, Frédéric Lapointe, c'est pas curieux aussi d'évoquer l'illégalité pour François Legault, alors que justement la Cour supérieure avait rejeté une demande d'injonction déposé par deux étudiants de McGill qui visaient à limiter ou, je ne sais plus, encadrer la manifestation. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, bien, c'est ça. C'est la différence entre un appel au calme, je pense que ça aurait été dans le registre du premier ministre du Québec, et pointer du doigt une situation, blâmer des gens, qualifier d'illégal ce qui l'est peut-être, mais qui ne lui appartient pas, de déterminer ou de déclarer. Donc, c'est la nuance entre les deux. Moi, j'aurais été davantage du côté de l'appel au calme, d'autant que la police de Montréal, en pratique, je l'espère, ne réagit pas ou n'obéit pas au désir du premier ministre. On se souvient qu'il y avait de gros doutes à l'époque du printemps érable, en 2012, à l'effet que la Sûreté du Québec, suite aux appels quand même assez explicites de Jean Charest, c'était particulièrement gâté sur les étudiants. Et je pense aux manifestations de Drummondville, là, où il y avait eu de très nombreux blessés du côté des étudiants avant même que les manifestations là dégénèrent ou reçoivent des avertissements. Donc, il faut faire attention, comme premier ministre, de ne pas encourager les forces de l'ordre à aller là où elles n'iraient pas d'elles-mêmes.
Intéressant. Précisons que Justin Trudeau, lui, de son côté, hein, je fais confiance aux universités pour gérer ces choses-là. Est-ce que ça vous étonne, Rémi Villemur?
C'est une façon de ne rien dire.
Oui, c'est ça. Hein? Et puis,
on connaît.
Voilà. Justement, traversons vers Ottawa, parce qu'il faut parler de cet épisode à la Chambre des communes, durant lequel ça débat de façon assez corsée. Rémi Villemur est là. C'était sur les drogues ou la je ne sais plus, je vais vérifier le sujet.
Oui, c'était sur la situation en Colombie-Britannique, là, les drogues, effectivement.
Oui, oui. Ouais. Mais ce n'est pas ça vraiment qui est important non. Ici, c'est que Pierre Poilievre traite Justin Trudeau de « wacko » en anglais, de « cinglé » et d'autres mots que j'oublie. Puis il se fait finalement, il revient à la demande du président de l'Assemblée, il revient sur sa déclaration et accepte de dire plutôt « extrémiste » et « radical », qui sont, je crois, des mots parlementaires, en tout cas au moins radical. Mm-hmm. Il se fait quand même expulser de la Chambre, ce qui est assez rare, pour ne pas dire
c'est la première fois.
Absolument exceptionnel. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors, plusieurs ont crié au trumpisme, hein, tout de suite. M. Poilievre l'a cherché. Il était heureux, finalement, de la tournure des événements. D'autres disent que les libéraux le cherchaient aussi, c'est-à-dire que ça faisait longtemps qu'on avait une dent contre M. Poilievre et à travers ce président libéral, pour employer les mots de M. Poilievre lui-même, on a fini par sévir. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, une recherche très courte et très facile dans le journal des débats de la Chambre des communes permet d'apprendre que le mot WACO a été utilisé plusieurs fois dans l'histoire du Canada à la Chambre des communes. C'est un mot, oui, qui est non parlementaire, mais ça n'avait jamais conduit le président de la Chambre à expulser un membre de la députation du Canada. Et là, dans la situation où c'est très particulière, où c'est le chef de l'opposition officielle qui prononce un mot pareil, c'était jamais arrivé, même dans un autre contexte, qu'on avait expulsé le chef de l'opposition officielle. Moi, je pense que, je n'irai pas jusqu'à dire, non pas parce que je le pense pas, mais parce que je sais que ça engage quand même un certain nombre de choses, que le chef et le président est, disons, partisan et que c'est politique, mais je n'aurais pas expulsé le chef de l'opposition officielle pour un des propos pareils. J'ai déjà entendu pire. Vous savez, cette semaine, il y avait des gens qui disaient « Waouh, c'est assez surprenant, le climat à la Chambre des communes, c'est des choses qui arrivent des fois à Québec, mais à Ottawa... » Non, 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 non. Il faut vous informer, les amis, là. C'est rendu très, très, très hostile à Ottawa, là, depuis que Pierre Poilievre est numéro un dans les sondages. Ça se crie après. On a eu le chant « God Save the King » l'autre jour. À chaque fois que les libéraux prennent la parole, les conservateurs éclatent de rire, enterrent les discours des blocs.
Hein, vraiment,
non, non, mais c'est du jamais vu. Dans l'histoire récente du Canada, on n'a jamais vu. Il faut revenir au début de la fédération du pays.
Alors, est-ce que ça se joue à deux, ça, ou est-ce que c'est vraiment le trumpisme à la canadienne de M. Poilievre qui est l'élément déclencheur de tout ça, d'après vous?
Écoutez, moi, je trouve que c'est possible de réfléchir au-delà du trumpisme et de ces genres de concepts-là. Là. C'est vrai que c'est facile. Là. Il est à notre disposition. On peut recourir facilement au trumpisme, mais c'est pas ça. Là. Le Canada est un pays qui s'inspire beaucoup des États-Unis, un pays... Oui, vraiment.
C'est pour ça que je dis ça.
Oui, mais c'est pas parce que je veux dire, enfin, c'est pas... Je pense pas qu'on est dans le trumpisme parce que c'est pas aussi grave, entre guillemets, que ce que ça impliquerait si c'était du trumpisme.
Non, mais le principe est le même, c'est-à-dire c'est du populisme. Transgresser.
C'est du populisme, c'est de la transgression, effectivement, mais ça a déjà existé, ça va encore exister. Non, c'est ça. Je pense qu'il y a quand même... il faut se poser la question. Monsieur Fergus, c'est pas la première fois...
C'est pas très impressionnant, hein, comme président, comme autorité.
Pas vraiment, là. Autant de bourdes en si peu de temps.
Il devrait être parti, d'ailleurs. Là.
Ben oui, vous avez raison de le noter, mais il faut vraiment regarder, parce qu'il y a des gens qui ont écouté, il y a des gens qui ont lu là-dessus, mais il faut regarder la scène, parce qu'il reçoit une feuille à sa gauche sur laquelle est écrit le message qu'il va lire. Donc, en fait, il avait déjà demandé à ses greffiers de préparer ça. Je ne sais pas comment, là, mais il avait dû envoyer un message ou il avait dû avertir un de ses greffiers pour lui dire « Regarde, dans 10 minutes, ça risque de dégénérer. Écris-moi le message. » Parce que là, il reçoit la feuille lorsqu'il décide que c'en est assez. Et là, il se met à lire l'ordre d'expulsion. Donc, ça avait l'air d'être organisé pas mal.
Scénarisé un peu. Hein?
Oui, presque.
Frédéric Lapointe, qui scénarise ici? Qui fait des manœuvres? Est-ce qu'on se mérite là-dedans, des deux côté où vous voyez un coupable?
Non, je pense pas qu'il y ait de coupable. Mais remarquons qui choisit quel rôle dans la pièce de théâtre. Hein? Vous avez utilisé le bon terme tout à l'heure, celui de transgression. Et sans référer au trumpisme, là, de nombreux analystes politiques constatent que les gauches, au sens général, là, pas nécessairement les gauches foncées, là, ça peut être les gauches pâles, ont de la difficulté à progresser dans de nombreuses juridictions parce que, notamment, c'est du côté de la droite que vient la transgression, la contestation de l'ordre établi.
Désormais.
De l'ordre normatif établi.
C'est ce qui n'était pas le cas auparavant, évidemment. C'était l'apanage plutôt de la gauche, ça.
Ben, exactement. Les partis conservateurs étaient les partis bien élevés, pour le dire ainsi, alors qu'aujourd'hui, les partis bien élevés sont les partis de gauche. Alors, par une espèce d'effet de contraste, là, où si on peut pas dépasser d'un côté, on essaie de dépasser le véhicule qui est devant soi de l'autre.
Alors, la gauche est-elle devenue conservatrice? Est-ce qu'on est en train de brouiller?
Conservatrice dans les manières, très certainement. Et plusieurs le déplorent froidement comme analyste, mais il y a aussi plusieurs militants, personnalités, politiciens à gauche qui vont le développer, qui vont tenter d'autres stratégies et qui bien souvent vont être critiqués parce qu'on on ne leur permet pas. Alors que de l'autre côté du spectre, bien c'est de plus en plus accepté là, pour un leader de droite d'être indiscipliné, de faire des abus de langage, de critiquer ce qui n'était pas critiquable auparavant. On se souvient de Poilievre contre la Banque du Canada. Hein. C'est
pour, ben oui, pour je vais congédier le patron. Oui.
Donc voilà. Donc on a une espèce de changement d'habit entre la droite et la gauche, puis c'est ce que cet épisode à la Chambre des communes illustre.
Et ce qu'on a oublié à travers tout ça, Rémi Villemur, c'est que Pierre Poilievre, juste avant ou juste après, je ne sais plus, parlait du recours à la disposition de dérogation pour mener à bien certains de ses projets. Et justement, ça me permet de faire le pont vers le prochain sujet qui nous ramène à Québec pour mieux retourner à Ottawa. C'est la Fédération autonome de l'enseignement, le syndicat mal aimé, si on veut, de la dernière du dernier épisode de négociation avec le gouvernement, celui qui n'avait pas d'argent, pas de fonds de grève pour ses membres, mais qui, on l'apprend, dépense plus $1 million là, pour combattre la loi 21. Et la FAE a annoncé sa décision cette semaine d'aller voir la Cour suprême là-dessus pour contester la loi sur la laïcité de l'État. Ce sont les mots de la FAE. Mais on veut contester en demandant donc au juge de la Cour suprême de baliser le recours à la disposition de dérogation. Donc, on est en train de dire, pour expliquer à nos auditeurs qui auraient moins suivi le dossier, le gouvernement du Québec, dans le cas de la loi 21, comme d'ailleurs dans le cas de la loi 96, puis il l'a fait auparavant à quelques reprises, toujours sur des questions liées à la langue, l'identité ou la laïcité.
Sur Robert Bourassa.
Oui, mais aussi au début, sur René Lévesque, là, on l'avait fait de façon systématique, préventive. Donc, c'est une clause qui permet au gouvernement du Québec et des provinces du Canada de se soustraire à certains articles des chartes des droits pour qu'une loi reste en vigueur. Et Québec, dans le cas de la loi 21, fait appel à cette clause de façon préventive. On n'attend pas que quelqu'un poursuive et que la Cour invalide la loi 21. On invoque à l'avance la disposition de dérogation. Et ça ne fait pas l'affaire de plusieurs et la FAE se lance dans ce combat. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais moi, ça me fait rire parce que donc ça ne fait pas l'affaire.
Alors, sous prétexte, pardon, je complémente là, que certains de ses membres seraient lésés dans leurs droits. Ouais. Ici, le droit de porter des signes religieux ostentatoires dans certaines circonstances. Là.
Donc là, plusieurs choses. Là. Sur la question des membres là, dont les droits seraient lésés, il y a une clause grand-père dans la loi qui prévoit que les membres...
Mais ce qu'on dit, c'est...
Prochains membres, donc.
Ouais. C'est-à-dire que ces mêmes membres-là sont néanmoins bloqués pour des promotions, des mutations. Ils ne peuvent pas changer de poste. Ils conservent leur droit de porter des signes religieux à condition qu'ils restent...
Donc, c'est leur droit à la progression. Je ne sais pas si ça existait, ce droit-là. Donc, je ne le connaissais pas. Donc je suis à peu près sûr que ça n'existe pas. Donc, le droit à la progression, à la promotion, je ne pense pas que ça existe. Il reviens quand même au premier point, c'est que moi ça m'a fait rire parce qu'on disait donc les membres dont sont donc lésés. Non, c'est pas vrai. Vous étiez donc employé avant la loi 21 et là vous pouvez conserver votre signe religieux. Donc il n'y a pas de droit lésé, droit de religieux ou droit de liberté d'expression de conviction religieuse, c'est pas lésé puisque vous pouvez encore le porter. Donc ce sont les prochains membres. Mais les prochains membres sont avertis durant le processus d'embauche. On leur dit, écoutez, ben, ça marchera ou ça ne marchera pas. Donc, si vous décidez de ne pas le faire, vous ne devenez pas membre. Donc, là, ils défendent donc des gens qui ne sont pas membres. Donc, ça ne marche pas. Y a la majorité, aux dernières nouvelles, des membres de la FAE sont pour la loi 21, ou en tout cas sont pour le fait de demander à des gens d'enlever leur signe religieux durant l'exercice de leur fonction. Donc là, un syndicat...
Vous référez à cette consultation qu'avait menée le syndicat il y avait maintenant plus de 10 ans.
Oui, il y a à peu près 10 ans, ouais. 11 ans, je pense, exactement. Ouais. Mais c'est le dernier... Enfin, c'est la dernière assise de données, de statistiques qu'on connaît. Ben, tant pis, je veux dire, c'est ça qu'on a.
Alors, il y avait eu une première consultation, je pense, qui donnait 70% de mémoire, là, de gens qui étaient plutôt en faveur du principe de restreindre parfois le port de signes religieux. Puis ensuite, il y avait eu une autre consultation, ça avait été beaucoup plus serré auprès de quelques dizaines de délégués. Là. C'était pas la même chose.
Ah, quelques dizaines. Ouais. Donc, et je pense
mais
quand
c'est
même...
ça.
Oui, je veux bien, mais c'est ça. Donc, mais je pense même qu'en plus, on était encore rendu à une majorité de gens qui étaient en faveur du fait d'enlever le signe religieux durant l'exercice des fonctions. Donc là, je ne sais pas sur quoi ils se basent pour aller là. On l'a deviné, c'est extrêmement militant, extrêmement idéologique. Et ils ont l'air complètement fous. Parce qu'avec... La dernière grève, pas de fonds de grève, là, ça a coûté 1,2 million, je pense. Les chiffres sont sortis.
C'est ce qu'on nous a dit. C'est ce que la présidente elle-même...
Et je salue la présidente qui a quand même, franchement, elle est décomplexée complètement. Elle s'affiche, elle sort les chiffres.
C'est pas vous, Rémi Villemur, qui l'a suggéré comme prochaine porte-parole féminine de Québec solidaire?
Pourquoi pas? Vous avez la blague, évidemment. Ouais. Mais pourquoi pas? Peut-être que ça marcherait bien, en tout cas.
Elle a le profil. Le temps nous presse. En terminant là-dessus, Frédéric Lapointe, ceux qui appuient la FAE dans sa démarche et plus largement les pourfendeurs ou les contestataires habituels de la loi 21 disent « Attention, là, la disposition de dérogation pourrait nous valoir des atteintes aux droits fondamentaux à nous tous, hein, en disant, comme le chroniqueur Michel Séaugé, demain, ça pourrait être vous qui serez touché par ça. » Qu'est-ce que vous pensez de cet argument-là?
Ben, les constitutions ont pour but de...
En un peu plus d'une minute. Ouais, deux minutes.
Les constitutions ont pour but de freiner des changements sur des éléments trop importants. Mais les constitutions ne sont pas éternelles et ne sont pas des prisons. Alors que à un moment donné, un gouvernement élu par 98% des gens veuille rétablir la peine de mort, il y a aucune constitution qui va l'empêcher de le faire. Il va y avoir un amendement constitutionnel. Non, en fait, ce que la FAE fait, c'est de se battre pour le droit d'une cour fédérale d'invalider elle-même une loi québécoise avant que le gouvernement protège la dite loi québécoise. Donc, elles ne se battent pas pour le droit de parole de leurs membres, elles se battent pour le droit de parole d'une cour fédérale contre des lois québécoises. Ça me semble un réflexe pas très national, pour le dire ainsi.
Bien, à l'évidence, Rémi Villemur, on termine là-dessus, ce n'est pas dans les préoccupations de la FAE. La FAE est dans un combat, une lutte politique sur la question du port de signes religieux ou des droits fondamentaux, disons, mais c'est la question du rapport Québec-Canada et du fédéral qui intervient ici, manifestement, n'est pas sur son radar.
Bien, je retiendrai le premier élément de votre phrase, c'est-à-dire qu'ils sont même pas... Ils sont dans une lutte très politique. Ils ont même dit écoutez, nous, en fait, il faut arrêter de penser qu'on se concentre juste sur le port des signes religieux. C'est qu'un jour, peut-être, là, ils ont parlé d'avortement. Hein, donc là, ils étaient rendus... C'est politique, c'est militant, c'est idéologique. C'est même pas la loi 21 qui les préoccupe. C'est autre chose. Et ils sont accompagnés.
Ils manifestent leur adhésion à...
Oui, c'est un combat politique. C'est une lutte politique. Ils font de la politique. Ils font pas du travail syndical. Ça n'a aucun rapport. C'est pas à la demande des membres. Toutes les sorties qu'on a vues dans les médias, les lettres ouvertes, ce sont des membres gênés d'être à la FAE qui questionnent même leur engagement, en fait, leur adhésion à la FAE, qui ont dit peut-être qu'on va essayer de faire en sorte que nos unions syndicales sortent du syndicat de la grosse centrale. C'est gênant. C'est vraiment gênant.
Intéressant à suivre, donc, et c'est passionnant aussi. Merci beaucoup, Frédéric Lapointe, président du Mouvement national des Québécois. À une prochaine, merci beaucoup. À la semaine prochaine, j'espère bien. Rémi Villemur, merci beaucoup, détenteur d'une maîtrise en histoire, doctorant en sociologie, de nous avoir éclairé de vos commentaires ce midi. Chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit merci à vous, merci à Lysandre Duplay à la mise en onde. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été, j'en suis certain, nombreux à l'écoute ce midi ou en reprise. Et à samedi prochain, même heure, même poste.